Le temps des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Cette semaine, une émission placée sous le signe de l'érudition, du texte et de ses rapports aux lumières. Une émission sous le signe aussi de la figure de l'homme de lettres. Et l'expression, vous le verrez, est importante, vue comme un contrepoint à un certain obscurantisme. Il sera question de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, des archives, des écrivains aussi, de ce qu'apportent les textes, l'esprit et la lettre à un individu, à une communauté d'hommes et de femmes aussi. Il sera question de quête et d'enquête et surtout de l'itinéraire textuel qui réunit nos deux écrivains cette semaine, Arturo Pérez Reverte et Maurice Hollander. Arturo Pérez Reverte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de Club Dumas, du tableau du maître flamand, de la reine du sud, des aventures du capitaine Alatriste aussi, dont les aventures ont été portées à l'écran, comme d'ailleurs la plupart de vos romans. Vous êtes en effet le pape du roman d'aventure espagnol, aventure au centre de laquelle le livre joue souvent un rôle central, crucial. Et il est question, dans ce nouveau livre, intitulé « Deux hommes de bien » que vous publiez au Seuil, traduit l'espagnol par Gabriel Yacouli, d'un des livres les plus importants pour l'histoire de l'humanité et de la modernité aussi, l'Encyclopédie. Alors vous avez été longtemps reporter de guerre, vous en avez parlé dans « Le peintre des batailles » de ce reportage de guerre à travers cet homme enfermé d'ailleurs au milieu de ses souvenirs dans une vaste maison. C'est un livre que j'aime beaucoup. Vous êtes aussi membre de l'Académie royale d'Espagne et cela a son importance dans ce livre dont certains des protagonistes sont des membres de cette académie qui à la fin du XVIIIe siècle, et c'est l'histoire de ce nouveau roman, envoie deux émissaires à Paris pour rapporter en Espagne les 28 tomes de l'encyclopédie alors interdite. C'est le combat pour les Lumières que vous mettez en scène. Le livre donnant ici corps à ces lumières sous la forme d'un roman d'aventure, puisqu'évidemment, toute l'Espagne et toute l'Académie ne se réjouit pas d'une telle importation réputée dangereuse. Un espion est donc chargé de faire échouer l'entreprise, qui est aussi une entreprise littéraire, puisque vous avez à cœur, Arturo Pérez Reverte, de dresser le portrait d'une certaine France pré-révolutionnaire qui éblouit vos deux envoyés. Et cette France, eh bien ce livre, l'encyclopédie qui est au centre de votre roman, en est presque le portrait, en est presque le symbole textuel. C'est un hommage aussi, ce livre, à la France des Lumières.
C'est surtout un hommage à la France des Lumières. Et les troisièmes protagonistes du roman, c'est justement les Paris des Lumières, les Paris pré-révolutionnaires, les Paris qui bougeaient des idées et d'intelligence, et que pour les Espagnols, les petits Espagnols qui viennent ici, les académiciens qui ont eu des correspondances avec les philosophes, pour eux, la France est la référence culturelle et morale. Ils viennent ici avec le respect, comme s'ils rentrent dans une église, non, et vont dans les cafés, dans les salons, et connaissent de la vie intellectuelle française.
C'est drôle que vous disiez une église pour des gens justement qui sont soumis aussi à certaines manœuvres de l'église pour empêcher l'importation de ce texte lumineux qui évidemment défie le pouvoir de l'église.
Ouais, parce qu'à différence de là, en France, il avait une église puissante, mais elle était pas introduite dans les mécanismes plus hauts du pouvoir. Mais en Espagne, l'église était partout, était dans le pouvoir. Alors, l'offensive de l'église contre les Lumières a été très forte. C'est pour ça que l'Espagne a raté sa opportunité pendant que la France a réussi.
Oui, est-ce que c'est un livre qui ne cesse d'ailleurs d'essayer d'expliquer pourquoi, en fait, l'Espagne a raté les Lumières de très très peu, en fait?
Oui, elle se fait arrêter les Lumières parce qu'elle avait trop de forces obscures, elle était trop lourde, les systèmes, et l'actuation politique de l'Église était si fort qu'elle empêchait la Lumière.
Voilà, oui. On y reviendra. Et enfin, bonjour Maurice Hollander.
Bonjour.
Vous êtes à ma gauche, historien à l'École des hautes études en sciences sociales et éditeur, écrivain. La librairie du 21e siècle, la collection du Seuil, c'est vous. Vous y éditez notamment des textes aussi différents que ceux de Claude Lévi-Strauss sur le Japon. Je me souviens très 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 beaux textes, des inédits de Georges Perec, Olivier Rollin aussi, c'est aussi très contemporain, Marcel de Tienne, Antoine Compagnon, Yvan Jablonka ou Michel Perrault, on se souvient d'Histoire de chambre. Et puis vous y éditez vous-même, puisque c'est dans cette collection que paraît Un fantôme dans la bibliothèque, c'est votre nouveau livre. Et c'est l'écrivain Maurice Olinder dont il sera question aujourd'hui, si tant est qu'on puisse le séparer de l'éditeur, de l'intellectuel. Maurice Olinder, c'est quand même la même personne.
On pourrait dire simplement, quand on conjugue le verbe écrire, que écrire, c'est écrire. Je ne suis pas sûr que j'ai écrit ce livre-ci, Un fantôme dans la bibliothèque, autrement que Les langues du paradis. Les langues du paradis, c'était un essai sur les fictions savantes, peut-on dire, comment, quelle langue parlait-on au paradis, c'était il y a bien longtemps, un vieux bouquin déjà aujourd'hui, et ici,
1989,
c'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison, vous êtes gentils de nous rajeunir tous. Et puis ici, c'est vrai qu'il y a pas mal de pages de fiction, même un bref roman qui a donné son titre au livre, Un fantôme dans
Vous parlez
dans la
de votre enfance.
Où je parle de l'enfance. Et en même temps, vous savez, de la même manière que je ne suis pas sûr qu'on cuisine de deux manières différentes, je ne suis pas sûr non plus qu'on écrive de deux manières différentes. Donc que ce soit du côté du rêve, de la fiction ou de l'essai, c'est sûrement la même plume qui avance.
Alors dans ce livre, Un fantôme dans la bibliothèque, vous réunissez un certain nombre de vos textes où vous revenez sur votre passé. En tout cas, le narrateur parle d'un passé d'analphabète. Oui. Quelqu'un qui se défie de l'alphabet.
Écoutez, Un fantôme dans la bibliothèque, titre d'une des parties du livre, m'est venu une nuit. Je me suis levé, c'est une nuit de Noël, et je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à écrire l'histoire d'un gosse, d'un enfant qui n'avait envie de rien dans l'existence. Il faut préciser, quand je dis rien, c'est-à-dire ne pas avoir envie de vivre est une chose banale. Il n'avait même pas envie de mourir. Il n'était même pas suicidaire. La seule chose qui le tenait, son unique colonne vertébrale, c'était de ne jamais, jamais apprendre, ni à lire, ni à écrire. Mais il ne savait pas pourquoi il ne voulait pas. Et voilà que ce gosse, l'adolescence, vous savez, c'est le moment où tout se bascule. Il sombre littéralement, ni dans l'alcool, ni dans la drogue. Il sombre dans l'érudition. Il fait du grec, du latin, de l'hébreu, du sanskrit, mais sans alphabet. Et quand on lit ce texte, on comprend que son problème, ce n'est pas le récit. Le problème, ce sont vraiment cette espèce de truc noir sur une page blanche qu'on appelle les lettres de l'alphabet.
Les signes
et les mots. Et voilà qu'il grandit, qu'il va vers des bibliothèques, et puis c'est la suite de l'histoire.
Et aucun rapport avec Maurice Olinder.
C'est très autobiographique.
Voilà, il me semblait bien.
Vous l'avez
aussi.
Voilà.
Il me semblait bien. Ça vous plaît, ton repère très verté?
J'allais dire que personne ne mit ce qu'il n'y a pas. Oui. Aucun écrivain mit dans ses romans ce qu'il n'y a pas. On est toujours un peu quand on écrit. Ouais.
Oui, exactement. Ça vous plaît cette maladie d'érudition, de sombrer dans l'érudition comme on pourrait sombrer dans une drogue absolument folle?
Oui, ça pourrait être. Ouais. Oui, et surtout l'idée des les lecteurs qui est plongé dans la bibliothèque, qu'il lit pas, et ça m'intéresse beaucoup. Comme romancier, je veux dire, peut-être un jour je vais utiliser ça pour un roman.
Parce c'est vrai que les livres,
il est formidable.
Les livres sont pratiquement toujours au centre. L'objet livre, la magie du livre, le pouvoir parfois occulte du livre sont au centre de vos fictions.
Vous savez, je suis né dans cette bibliothèque. Mon grand-père, il avait une grande bibliothèque. Je suis grandi quand j'étais petit, je ne lisais pas encore. J'ai commencé à lire très petit. Mais j'avais 3-4 ans, je jouais avec mes frères et mes cousins entre les livres qui étaient des objets, mais le climat, la situation, l'entourage m'a donné une sensation que je me souviens encore. Et je ne lisais pas encore. Et pour moi, la bibliothèque était déjà intéressante, était déjà importante.
Alors vous voyez, à ce propos,
Maurice
moi,
Olinder.
Parallèlement à ça, chez moi, il n'y avait pas de livres. Pas de livres, très peu, des parents qui ne lisaient pas, qui n'écrivaient pas, qui parlaient sans arrêt que de lire et d'écrire. C'est un autre rapport imaginaire. Vous, il y avait à 3-4 ans, vous ne lisiez pas, il y avait des livres. Moi, il n'y avait pas de livres, mais on parlait sans cesse de lire et d'écrire.
Je voulais juste savoir, Maurice Olinder, quel nom vous donneriez à cet assemblage de textes? Est-ce qu'il s'agit d'une forme d'autobiographie d'un lecteur qui a failli ne pas lire, et qui a voulu ne pas lire, peut-être? Ou d'un homme présent face au livre autant qu'il est fantôme face au livre?
J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui m'était arrivé. C'était quoi ce gosse qui voulait pas apprendre à lire et à écrire, quand même jusqu'à très tard, hein. J'ai appris à peu près en même temps le français, le grec et le latin quand j'avais 20 ans pour faire un bachot. Qu'est-ce qui est arrivé à cet enfant pour qu'il puisse à ce point se passionner pour ce qu'on ne comprend pas? Parce que je continue à penser que ce qu'on lit et ce qu'on écrit, on ne le comprend pas. En tout cas, j'affirme dans ce livre que je ne comprends pas ce que j'écris. Je n'ai d'ailleurs pas à le comprendre. Je n'ai pas à maîtriser les choses. Pour moi, ça se passe
comme ça. C'est le lecteur qui doit choisir, d'ailleurs.
Yves Bonnefoy disait un jour joliment, quand tous les gens le remerciaient pour ses livres, il dit, vous savez, ne me dites pas tant merci, je ne fais que la moitié du travail. Vous faites l'autre moitié du travail.
Vous êtes d'accord, Toro Pérez-Reverté, c'est le lecteur. Vos livres, finalement, vous... Un écrivain ne les maîtrise que très très peu, et à la moitié, à 50%, hein, disait Bonnefoy, via Maurice Olindain.
Absolument. Et ça, c'est ça que je suis dans la main maintenant, c'est n'est que papier et encre. Oui. C'est mort pour moi, c'est rien déjà. C'est le lecteur qui doit faire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de livres qui sont égaux, parce qu'il n'y a pas de lecteur égal. Mmh. Chaque lecteur fait la projection dans le livre de sa vie, ses lectures, ses rêves, ses frustrations, tout, non? Alors, les livres, c'est interactif. Mmh. C'est pour ça que c'est le lecteur qui doit faire vraiment remplir tout l'espace en blanc que l'écrivain laisse dans le livre.
Mmh. Il est question des blancs et du noir aussi chez vous, Maurice Olindain. J'ai commencé, hein, vous m'avez entendu, à vous réunir sous ce haut patronage du texte, hein, le mot texte qui étymologiquement renvoie à la notion de tissage. Vous parlez du faux fil, Maurice Olindain. C'est le pouvoir du texte écrit en effet qui fonde vos deux livres et qui les a inspirés. L'encyclopédie d'un côté, l'encyclopédie du XVIIIe siècle, hein, de d'Alembert et Diderot chez vous, Arturo Pérez-Reverté, qui devient un enjeu de fiction, un enjeu d'aventure, un enjeu de pouvoir aussi chez vos héros. Et puis de l'autre côté, pratiquement toute une bibliothèque, en fait, parce que vous citez la plupart des auteurs que vous avez lus, pas tous évidemment, et aussi ceux que vous avez édités. Je voudrais savoir et vous poser la question à tous les deux. Un écrivain est-il avant tout celui qui porte dans ses propres textes la mémoire d'autres textes fondamentaux et une manière, au fond, de leur redonner l'existence à tous ces textes? Est-ce qu'un écrivain est quelqu'un qui paye une dette à l'égard des textes qu'il a lus, des auteurs qu'il a lus?
Je suis un romancier, pas un écrivain. Alors, je fais la différence.
Pourquoi?
Je raconte des histoires. Ouais. J'écris pour raconter des histoires, pas pour organiser le monde.
Les histoires n'organisent pas le monde?
Non. Les histoires, c'est personnel, c'est égoïste, c'est un acte égoïste. Moi, je m'amuse beaucoup, je suis heureux en racontant des histoires. Alors, je n'ai pas aucun intérêt d'apostolat, de conviction, de rédemption du monde. Non, j'ai aucune morale. Non, je suis un type qui raconte des histoires parce que ça me fait plaisir. Il y a des lecteurs qui partagent ce plaisir, ils lisent mes romans. Alors, de ce point de vue, un écrivain, à mon avis, et les livres qu'il a lus et les regards que la vie l'a laissé. Et avec les regards que la vie l'a laissé, il réécrit les livres qu'il a lus. Moi, j'étais reporter pendant 20 ans.
Reporter de guerre.
Dans le pays des guerres. Alors, les regards que sa vie de guerre m'a laissé et les livres que je lis pour comprendre l'horreur et la vie que j'ai menée, avec ça, j'écris les romans.
D'accord, vous dites...
Enfin, j'ai fini. Oui. C'est pour ça qu'à mon avis, un romancier doit aller à l'île du pirate et revenir avant d'écrire. Parce que s'il écrit avant d'aller à l'île du pirate, il n'a rien à raconter de personnel.
Mais juste une petite précision, vous dites humblement, et c'est très bien d'être humble, Arthur,
non, c'est pas la question.
Mais un type qui raconte des histoires, néanmoins, au centre de cette nouvelle histoire que vous racontez, il y a quand même un texte essentiel qui est plus qu'un texte qui raconte une histoire. Ça raconte une histoire, l'encyclopédie. Une histoire du progrès, une histoire des savoirs. Mais c'est on voit bien là aussi que, au cœur de cette fiction, en apparence peut-être anonyme ou simple voyage sur l'île des pirates, pourquoi pas, il y a quand même au cœur de ça un texte qui a été la matrice de la notion de modernité en Europe.
Bien sûr, non, il y a le respect,
donc
l'admiration.
C'est pas juste une histoire.
Non, mais pour moi, c'est une réflexion, surtout dans ces moments dans lesquels l'Europe est en train de mourir, l'Europe de Platon, d'Aristote, de Cervantes, de Montaigne, de Montesquieu, de Voltaire, de Shakespeare, et en agonie, Et là, je croyais qu'en ce moment, c'était bien pour moi d'abord, et aussi peut-être pour mes lecteurs, une réflexion
quand
sur,
même.
Sur la lumière.
Un peu d'apostolat, alors, quand même.
Non, c'est pas un apostolat, c'est un soulagement. C'est comme un analgésique.
Maurice Hollander, sur cette, il y a deux choses qui viennent d'être signalées. D'abord, est-ce qu'un écrivain est celui qui porte justement sur ses épaules comme une sorte d'atlas héroïsé ou anti-héroïsé tous les livres et tous les auteurs qu'il a lus? Et puis cette notion quand même, dont on reparlera, d'Europe des écrivains à l'agonie, dont vient de parler Arturo Pérez-Reverté.
Si je commence par le second point, est-ce que ce qu'Arturo Pérez-Reverté vient de nous dire, qu'il écrit aussi pour s'amuser et pour divertir ses lecteurs? Et ça, c'est vrai. Tout le monde sait que le savoir passe mieux par le ludique et le plaisir que par des manières qu'on imaginerait beaucoup plus rudes. Alors, quant à la mémoire dont vous parlez du passé, alors là, sans doute chaque auteur est singulier. Mon travail comme auteur, comme chercheur, là comme écrivain, comme historien, a été de restituer des grandes parts d'oubli.
Quand vous vouliez dire que cette Europe est en train de mourir, l'Europe d'Héraclite, l'Europe de Platon, l'Europe de Cervantes, ouais. Tant que les écrivains sont là, et compte tenu de ce qu'on vient de dire, qu'un écrivain porte en lui toutes ses lectures, tant qu'il y a encore des écrivains, il y a encore cette Europe-là, finalement, de la culture, Arturo Pérez-Reverté. Pourquoi l'enterrer tout de suite?
Tout le système éducatif européen est fait pour écraser l'intelligence, même à l'école. Mmh. L'égalité, mais en va, pas jamais pour l'excellence. Mmh. Mmh. Alors, tout ça, et Aristote, Cervantes, Shakespeare, ils incommodent les systèmes éducatifs actuels.
Bon, mais moi j'espère que ce n'est pas perdu. En tout cas, on va plonger dans cette histoire d'importation clandestine, d'aventure pour aller chercher un livre, le livre, 28 tomes de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert pour ramener ça en Espagne, ramener un petit peu de lumière dans cette Espagne qui est encore obscurantiste et contre cet obscurantisme se sont élevés quelques hommes de bien. En tout cas, il y en a deux dans ce livre, Arturo Pérez-Reverté. Mais d'abord, on écoute votre choix musical. Vous avez choisi Charles Trenet. Que reste-t-il de nos amours? Pourquoi ce choix?
Que reste-t-il de notre Europe?
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Nos amours, c'est l'Europe. Ah ouais. Bon, très bien. Alors, on va parler d'Europe aussi et de lumière. On écoute.
Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi.
Charles Trenet, donc nos amours, c'est l'Europe. Que reste-t-il de notre Europe?
Peut-être parce que moi j'ai vécu aussi, moi j'ai 60, c'est vrai, j'ai 66. Peut-être je me sens un peu en train de disparaître avec. Vous savez, dans mon quartier de Paris, que je viens dès que j'avais 15 ans, toutes les librairies, tous ont disparu. Mmh. Tous.
À Paris?
À Paris. La dernière, c'est Michel Pollack, qui c'est une librairie d'aventure, voyage et marine. Je suis allé hier la voir et il m'a dit, bon, je suis en train de fermer parce que c'est fini. Alors, c'est un peu le symbole de ça, ce monde dans lequel j'étais élevé, de la bibliothèque dans laquelle je suis grandi. Les livres que j'aimais, les paris que j'aimais, et tout ça s'en va. Mmh. Alors, heureusement, j'ai le livre comme analgésique pour m'aider à assister à la fin, qui est aussi mon fin, avec une certaine sérénité.
Et des lecteurs sont là aussi. Oh, il y a beaucoup de lecteurs pour Pérez-Reverté.
Oui, ça donne
voilà,
chaud.
Quand même, ça donne chaud. Alors, vous publiez donc au seuil Des Hommes de Bien, c'est votre nouveau roman, au centre duquel se tient un livre, et pas n'importe quel livre, l'incarnation de l'idée de progrès pour toute une modernité à la fin du XVIIIe siècle. C'est l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Et Des Hommes de Bien, c'est un roman d'aventure qui raconte, puisque vous parliez d'histoire, la quête de Don Hermógenes, c'est ça, Molina.
Hermógenes Molina.
Et Don Pedro Zarate, ouais, académicien espagnol, chargé de rapporter donc depuis Paris en Espagne les 28 volumes de l'encyclopédie, dans une Espagne qui est encore très très réactionnaire, en tout cas qui se partage ses ombres et lumières, cette Espagne.
Oui, plus d'ombre que de lumière, justement. C'est pour ça, mais à l'académie, et ça c'est vrai, à l'académie espagnole, il avait même des gens qui étaient religieux, qui étaient conservateurs socialement, mais qui avaient la certitude de que l'encyclopédie, ça changeait le monde. Et pour faire les dictionnaires qu'on faisait de la langue espagnole, ils avaient besoin d'avoir tous les renseignements possibles. Alors c'est pour ça qu'ils sont... Ils sont allés chercher l'encyclopédie, ils ont obtenu un permis royal,
oui,
ils ont voyagé à Paris, voilà, pour l'avoir avec eux.
Il fallait le permis royal. Et c'est vrai qu'ils veulent le rapporter, ce qui est très touchant dans ce livre, comme un objet d'étude. En fait, ils se disent qu'ils rapportent une mine, en fait, presque une mine d'or, qu'ils vont pouvoir étudier, se pencher, pour que les lumières jaillissent finalement dans cette Espagne.
Oui, c'est un trésor, qui est un trésor intellectuel, et les moments qui est pris dans les actes de l'académie, quand l'encyclopédie est arrivée, on l'a exposé à l'académie, et tous les académiciens, même les académiciens qui étaient plus à droite, on peut dire, non, ils sont allés la voir, la toucher, ouais, parce que là, c'était le symbole de tout ce qu'on aimait, les lumières, qu'ils savaient qu'étaient si nécessaires pour l'Espagne.
Et vous montrez, parmi ces académiciens, il y a certains hommes d'église, d'ailleurs, ouais, qui sont tout à fait d'accord pour que l'encyclopédie... D'autres sont opposés, évidemment. Ouais. Mais en fait, vous battez en brèche aussi un cliché. Il y a toute une partie de l'Église, en fait, qui a envie que l'encyclopédie entre en Espagne.
Et c'est vrai, moi, je n'ai pas inventé ça, c'est vrai. Et justement, dans mon roman, je voulais raconter ça. Je voulais placer, un à côté de l'autre, un bibliothécaire, Don Hermógenes, qui est un homme religieux, et conventionnel, traditionnel, et lié aux traditions. Et l'amiral, que c'est un marin scientifique, sans foi, un homme moderne du futur. Et comment les dialogues entre les deux, quand ils sont des sondéviens, on peut toujours avoir, même à l'amitié, et établir des liens très étroits entre eux, non? C'est justement ça, c'est la culture comme lien, la culture comme territoire dans lequel les sondes de bonne volonté peuvent toujours parler.
C'est intéressant. Je voulais revenir là-dessus aussi sur la part de vérité historique. Est-ce que ces deux personnages, mais vous allez me répondre après, ont existé tels quels? Est-ce que le Hermógenes a existé?
Non, ils n'ont pas existé. Hein.
Voilà.
C'est fiction.
Voilà, parce que vous avertissez quand même le lecteur, au contraire, vous le priez de vous croire. Ce roman repose sur des faits réels, avec des personnages et des scènes authentiques, même si une large part de l'histoire de ses protagonistes relève de la liberté de fiction exercée par l'auteur. Parce que Hermógenes, moi, ça m'a fait penser, je partage avec Maurice Olinder aussi l'amour des langues anciennes, et Hermès, le messager. Au fond, ces gens sont les messagers du progrès. Donc je me suis dit, s'il existe...
Non, il existe pas, non. Je triche comme tous les romanciers. Justement, j'aurais pu faire l'histoire de comment est arrivée l'encyclopédie à Madrid. J'aurais pu faire comme livre d'histoire.
Parce qu'elle a existé. Elle est arrivée comment, là?
Elle est arrivée.
Oui. Mais ça n'a pas été un roman d'aventure.
Maintenant, elle est arrivée comme je l'écris.
Ouais.
À partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, c'est comment...
C'est ça. On est prié de croire que ça a été un roman d'aventure.
J'ai appris ça à Dumas.
Oui, Alexandre Dumas, qui est votre drapeau, vous dites.
Oui, c'est moi. Ouais, mais c'est le premier livre que j'ai lu et j'ai découvert l'amour pour les livres et pour la lecture avec Dumas. Après, il y a des livres qui ont été plus importants, évidemment. Mais pour moi, c'était toujours le symbole. Et là, c'est là où j'ai appris dès le début qu'un écrivain, il peut se permettre, on sait manipuler l'histoire et l'adapter à la réalité de la fiction. Et on finit pour avoir une idée de l'histoire plus proche à la du romancier qu'à à la de l'historien.
Tout le monde faire de beaux enfants, comme disait l'autre.
Oui, le monde se souvient maintenant de Richelieu, mais pas comme a été historiquement, mais comme les Richelieu que Dumas a écrit.
Et ça vous plaît, ça, cette liberté, ouais, justement.
C'est pour ça que j'écris des romans.
Juste, je rentre un petit peu quand même dans le livre Arturo Pérez Reverté. Vous mettez en scène ce que c'est que le travail d'un romancier qui explore, et c'est pour ça aussi que ça m'intéressait de vous réunir, Maurice Olinder et Arturo Pérez Reverté, c'est que vous parlez du travail préparatoire, vous parlez des recherches, vous parlez même d'une façon de l'enquête aussi qu'on mène pour écrire un livre, que le romancier mène pour écrire un livre. Toute cette part qui structure le récit, ça vous amuse aussi de nous donner finalement la... On parlait de cuisine à l'orée de cette émission. La cuisine, finalement, de l'écrivain, ou est-ce que c'est encore une manière de manipuler le lecteur?
Non, ça m'amuse parce que c'est encore une manière de manipuler, parce que les 70% c'est fiction aussi. J'utilise des noms des réels, des amis à moi, même des amis français, mais je les fais faire des dialogues que jamais ils ont eu lieu. Et je raconte un autre roman parallèle, aussi si fiction que les romans de l'encyclopédie. Ouais.
Maurice Hollander.
Citation. Écrire un roman n'est pas sans risque. Le tout est d'obtenir du lecteur qu'il voit ce que l'auteur voit ou imagine, de devenir le regard de l'autre, celui qui lit, et de s'effacer discrètement afin que ce soit lui qui fasse corps avec l'histoire qu'on lui raconte. Fin de citation. C'est tout au début. C'est la première page des deux hommes de bien au seuil d'Arturo Pérez Reverté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, c'est formidable ce que vous faites. Voilà. Parlons simplement, édition également, des romans à grand tirage qui sont lus par d'innombrables lecteurs en d'innombrables langues. Et vous n'avez pas peur de rappeler ce qu'Aristote nous a appris, que rien n'est plus rigoureux que la fiction puisqu'elle est entièrement construite. Vous vous souvenez
Aristote
de la poétique.
Aristote ou Horace, docere et placere.
Magnifique.
Enseigner et faire plaisir. Arturo.
Aristote l'a écrit avant que Horace.
Voilà, exactement.
Non, c'est tout. Hein. Non, le premier livre que vous dites, c'est ça. Pour moi, était je lis la poétique d'Aristote quand j'avais 14 ans, 15 ans. J'ai commencé à étudier à l'époque grec et latin. Et pour moi, mais pensé sur un monde des possibilités formidables. J'ai tout compris avec lui.
Avec les anciens.
Rappelons, c'est une chose simple, parce qu'elle n'est pas assez dite. Aristote pose la question suivante. Il dit, alors quoi? Vous croyez vraiment que la poétique, c'est de faire des vers? Et que quand on fait de la prose, on fait de l'histoire? Pas du tout. Écrire l'histoire, c'est écrire, faire une enquête, historier, c'est écrire ce qui est arrivé. Et la poétique, c'est ce que fait Pérez Reverté, c'est de fabriquer ce qui aurait pu ou ce qui pourrait arriver. On est du côté du vraisemblable, de la poétique. Et la rigueur est de ce côté-là.
Et vous avez dit fabriquer.
Merci, c'est mon jour aujourd'hui. Merci.
Ouais, c'est bien. Poyen, c'est faire, gentil. D'ailleurs. Le mot c'est grec faire, pour poétique, c'est poyen, faire, c'est faire, c'est fabriquer.
C'est faire, c'est créer. En allemand, Gedicht, dichten. Vous avez le poème et vous avez également
aussi
la fabrication.
C'est vrai. On vous écoute, Arturo Pérez Reverté, lire en français, donc on vous remercie.
Je m'excuse
d'accepter,
de mon français.
Ouais, d'accepter, un petit passage, justement, de Deux hommes de bien.
La parole est à notre bibliothécaire, Don Hermógenes Molina. Le surnommé, corps replé, visage affable, veste marron et limé au coude lustré qui a connu des temps meilleurs, a levé la main et après avoir remercié le directeur de lui en donné l'occasion, il rappelle à ses collègues les raisons qui imposent les devoirs d'apporter à la bibliothèque les 28 volumes édités à Paris par Diderot, d'Alembert et Le Breton. Cette œuvre, allègue-t-il, non sans quelque émotion, s'impose malgré ses imperfections comme la plus brillante réalisation moderne de l'intelligence humaine, la somme monumentale des connaissances les plus avancées en matière de philosophie, de sciences, d'art et de toutes les autres disciplines connues et à connaître. C'est une de ces œuvres érudites et décisives, rares dans l'histoire de l'humanité, qui éclairent ceux qui les lisent et ouvrent au peuple la porte du bonheur, de la culture et du progrès.
Merci Arturo Pérez Reverté. Donc Deux hommes de bien, c'est votre nouveau roman au seuil. Donc au cœur de ce livre, il y a l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Et j'aime beaucoup ce que vous venez de citer. C'est le débat en fait qui ouvre entre les deux camps de l'académie pour dire voilà qui va aller chercher justement ce livre pour le ramener, les 28 tomes de ce livre pour le ramener en Espagne. Il y a de tout. Après, je dis quand même un mot. Évidemment, il y a les espions qui essaient d'empêcher ces deux hommes de ramener. Voilà.
Toujours l'aventure.
Il y a Paris. Il y a ce Paris des Lumières aussi. Qu'on voit le Paris, le Procope, les salons, les cafés. Parler aussi de littérature érotique aussi avec cette Madame Danceny. On y croise Choderlos de Laclos qui est en train de travailler. Donc c'est vraiment une peinture de l'époque, un vrai roman, une vraie histoire mêlant la fiction et la vérité. Je voudrais savoir quand même, vous avez commencé à esquisser tout à l'heure un pan de cette réflexion, mais l'encyclopédie, au fond, vous nous faites écouter « Que reste-t-il de nos amours, Charles Trenet ?» Vous nous parlez de l'encyclopédie du 18e et de l'attrait intellectuel absolument formidable qu'ont été ces lumières incarnées dans un livre, presque enfermées dans un livre pour être ouvert. Qu'est-ce qu'elle a de si importante pour vous, cette encyclopédie? On vous voit dans ce livre, il y a une photo qui vous montre sur la quatrième de couverture avec cette encyclopédie, en train de la feuilleter. Qu'est-ce qu'elle a de si importante pour vous, aujourd'hui, au XXIe siècle?
Que le monde n'a pas été le même après. Hein. Le monde a changé. Le monde ne pouvait pas être le même depuis l'apparition de l'encyclopédie. Quand je lis l'encyclopédie, quand je l'ai vu la première fois, et j'ai passé ces pages, et je compris que jamais on avait fait un effort si admirable pour éclairer l'être humain et le futur de l'être humain. Et la dette que nous, Européens, que nous, Occidentaux, nous avons avec les encyclopédistes est si large, si vaste, que jamais on pourrait la... Et surtout dans ce moment, c'est spécialement important de remarquer ça, non? Parce qu'on est justement en train d'être victime de fanatisme, pas seulement de fanatisme extérieur, aussi de fanatisme intérieur.
Oui.
Il y a un politiquement correct fanatique qui est aussi si dangereux que l'islamiste ou les radical ou n'importe qui.
Non. C'est-à-dire que vous mettez sur le même plan, Arturo Pérez-Reverté, le fanatisme extérieur et ce que vous appelez un fanatisme intérieur, ouais. Qui serait le politiquement correct. Pour vous, c'est un fanatisme ouais. intérieur. C'est pas un garde-fou pour non. justement nous empêcher de dire des énormités.
Non. Dans les romans, il y a justement les méchants du roman, il y a deux personnages. Oui. Un personnage qui a l'extrême droite et l'autre qui a l'extrême gauche. Oui. Et les deux sont complices parce qu'entre les deux...
Parlez-en un peu, parce que quand vous dites extrême droite, extrême gauche, là, on est en train de faire un raccourci contemporain, mais en gros, il y a l'archi-progressiste qui s'appelle, qui est assyrien, c'est ça?
Saint-Céron. Oui, voilà. Il y a d'un côté l'archi-progressiste qui, en réalité, c'est un type qui est un philosophe médiocre, mais qu'il fait le plagiat des philosophes européens et qu'il veut être un peu les sacerdots,
le seul, en fait.
Le curieux, non, qui fait l'unique transmission entre la culture, l'intelligence et le peuple, et l'autre, que c'est la réaction, la droite plus obscure, religieuse. Mais les deux ont besoin l'un de l'autre pour exister, non? Et entre les deux, ils déchirent ce qui est au centre, que c'est la vérité, c'est l'intelligence.
Donc vous êtes en train de nous manipuler totalement, Arturo Pérez-Reverté, quand vous nous dites « je suis un type qui écrit des histoires », au fond, on est quand même prié de faire notre propre examen. Enfin, pas prier, mais on peut, grâce à votre livre, faire notre propre bilan intellectuel au début oui. du XXIe siècle, quand vous nous confrontez à ce point, à ce qu'a été cette époque de lumière et de combat. Oui, je vois Maurice Hollander qui opine.
Je voulais demander à M. Hollande une chose, puisqu'on est, est-ce que vous croyez que l'écrivain, les romanciers, je parle d'écrivain, les romanciers, a une mission, une obligation morale de s'engager ou non?
Permettez-moi de répondre
Maurice
ici. Permettez-moi de répondre en historien. Je ne sais pas qui a quelle mission. Mais ce qui est certain, et qu'on peut observer, vous comme moi, comme tous ceux, celles qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que les grandes œuvres de la littérature, en effet, Dante, Shakespeare, Cervantes, etc., ont marqué, en France, Victor Hugo, l'encyclopédie. L'encyclopédie, il faut pas oublier, c'est Diderot. Diderot, c'est un romancier fabuleux, c'est un écrivain fabuleux.
Qui a changé les codes du roman, d'ailleurs.
Alors, leur mission. On peut imaginer une mission. Et finalement, il y a rien qui se passe après. Puis il y a eu des grandes œuvres. Prenez un poète comme Paul Celan, toujours lu très peu, etc. Mission. Mais l'œuvre marque son
sans
temps
doute,
et continue à marquer.
Et marque certains plasticiens comme Anselm Kiefer, par exemple.
Absolument. Aussi. Ce n'est pas obligatoire. Oui. On ne peut pas exiger. Il faut chercher ce que les romanciers ou l'écrivain a, mais on ne peut pas. Maurice Sachs, par exemple, non?
C'est auteur du Sabbat.
Absolument. J'ai eu un plaisir incroyable en lisant à Sachs, qui est amoral, qui est crapule, qui est rien de recommandable. Mais je ne peux pas exiger une morale à Sachs. Mais je suis heureux. En lisant ça, c'est ce que je voulais dire.
Alors, moi, Arturo Pérez-Reverté, j'ai grandi, hein, évidemment, aussi avec Club Dumas. Voilà, j'ai passionnément aimé La Reine du Sud, que j'adore cette figure de femme. Mais alors, d'ailleurs, vous avez choqué l'Espagne, je voulais vous interroger là-dessus aussi. Vous m'avez un peu choqué, parce que j'y ai vu un peu une posture l'an dernier en Espagne, quand vous avez affirmé que les djihadistes allaient gagner. Hein.
Ouais.
Et vous disiez parce qu'ils sont jeunes et parce qu'ils ont, on va le dire en espagnol, des cojones.
Ils ont des couilles.
Français, voilà. Ouais. Et que vous regardiez finalement à votre fenêtre, avec vos livres, les barbares en train de mettre Rome à sac et que c'était trop tard. Est-ce que c'était pas quand même cette résignation, une forme de posture de la part d'un écrivain, Maurice Hollander l'a rappelé, à fort tirage, qui a des lecteurs et qui attendent peut-être un peu plus de vaillance de la part de leur écrivain préféré?
Non, dire ça est déjà courageux. N'est pas facile dire ça. N'est pas facile dire il n'y a pas d'espoir, il n'y a que consolation. Je suis sûr, écoutez, moi j'ai vécu pendant 21 ans en guerre, d'un pays en guerre, et moi j'ai lu dès que j'avais 5 ans. Et dans ma bibliothèque, j'ai 30 000 volumes chez moi, les trois quarts, ce sont des livres d'histoire. Alors je suis lecteur d'histoire. Alors je sais que nous sommes l'Occident, l'Europe, Platon, Aristote, tout ce qu'on a dit avant, on est en agonie. Ça peut tarder encore un an, deux ans. Il n'y a aucune solution. La culture ne va pas solutionner rien, mais ça donne minimum la consolation. C'est un analgésique, une aspirine. Ça permet, ça donne des sérénités. Et je me sens comme les Romains qui à la fenêtre de sa bibliothèque, en regardant comment on brûle et trois, et dit bon, ça devait arriver. Mais il y a toujours un iceberg pour le Titanic.
Mais agonie, et je me tourne vers Maurice Hollander, agone, c'est le combat. C'est pas la mort, c'est pas déjà la mort.
Ouais, non,
c'est le combat.
Justement, non, et on combat, moi, avec, chacun fait son combat, mais si, voilà, il
alors,
fait son combat avec celui.
Que répond? Non, mais Maurice Hollander.
Vous savez, je pense qu'on n'avance jamais en vivant avec un rétroviseur. Et donc, ce que vous dites est un aspect de la réalité. C'est vrai, la situation est difficile aujourd'hui. Pourtant, je pense que beaucoup de choses qui se passent ne sont pas des analgésiques ni des aspirines, mais donnent beaucoup d'énergie. Non seulement à des jeunes, mais à des moins jeunes. Si on prend l'affaire du djihadisme et de l'islam, la chose est claire et entendue pour tout le monde. Ce sont des minorités manipulées par d'autres minorités ou majeures. Mais peu importe, la réaction viendra de l'intérieur même de l'islam et des pays qui, à l'intérieur même de leur univers culturel, souffrent de ça. Il ne faut pas oublier ce que Bagdad a été il n'y a pas si longtemps, je veux dire avant notre Moyen-Âge à nous. C'était New York. Eh bien voilà, il n'y a pas de fatalité dans l'histoire. Je veux dire, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas une sorte d'inscription dans le Coran, dans l'islam, ni dans aucune religion, dans une culture qui n'est pas elle-même prise dans le cours de l'histoire, sans quoi le christianisme n'aurait pas pu devenir ce qu'a été l'encyclique de Jean XXIII.
Peut-être, vous avez raison, mais il ne peut pas éviter d'être pessimiste. Moi, je suis pessimiste.
Non, mais moi, c'est le pessimisme tonique.
Voilà, bon, voilà. Mais oui, Arturo Pérez-Arvete a aussi une certaine tonicité. On va continuer d'ailleurs avec vous, Maurice Hollander, et ce fantôme dans la bibliothèque, qui traite, lui aussi, du rapport de l'homme au livre et au monde, parfois obscur, qui l'entoure. Vous parlez d'une autre forme, d'une autre barbarie, la barbarie nazie. Certains écrivains aussi qui ont collaboré, au fond. Vous citez Günter Grass, d'ailleurs, et vous y allez assez directement sur lui. On y reviendra. D'abord, on écoute votre choix musical. Vous avez choisi, alors il faut que vous nous expliquiez, L'Odario di Cortona, manuscrit 91, deuxième moitié du XIIIe siècle. Qu'est-ce que c'est que ce choix musical,
et
Maurice
Hollander?
Si on
écoutait un tout petit peu.
On écoute.
Parce que alors il faudra plus rien expliquer.
L'Odario di Cortona, c'est le choix de Maurice Hollander qui publie un fantôme dans la bibliothèque, au Seuil, dans la collection la librairie du XXIe siècle, qui est votre collection, Maurice Hollander. Pourquoi ce choix? C'est une pièce musicale qui nous vient du XIIIe siècle.
Elle vient non pas de mon enfance, mais de mon adolescence, que je raconte dans Un fantôme dans la bibliothèque. Je ne raconte pas une enfance juive, je raconte l'enfance du judaïsme pour moi, les rapports entre une enfance et un judaïsme sans religion, comme le judaïsme l'a souvent été, sans Dieu, mais plein de rituels, plein de pratiques, plein d'interdits culinaires, et où en effet je ne lisais pas, je n'écrivais pas, et où j'ai découvert à un moment où j'étais, c'est vrai, cliveur de diamants, c'est-à-dire un apprenti. Moi, j'avais...
Cliveur de diamants.
Oui, hein. Ça c'est une longue histoire pour une autre émission, parce que sans quoi on...
Exactement.
Cliver des diamants, c'est ni les tailler,
j'aime
ni les
le
faire
mot,
briller.
Cliver.
Cliver, c'est fendre. Et le texte dans le volume, le chapitre qui s'appelle Le cliveur de diamants, est une... Pardon, face à un grand romancier, une authentique fiction. Tout est inventé, y compris le nom de l'hôtel Plantin Moretus, les imprimeurs, où les chambres sont des chambres de cliveurs de diamants. Alors c'est à la fois une fiction technique, explique ce que c'est cliver un diamant, une fiction érotique, en raison de tout le vocabulaire, de la fente, de tout ce qui se passe au fond d'un diamant, et enfin une fiction politique, parce que tous ces diamantaires sont des pauvres, misérables, sans dessous, ce qui est très étrange. Mais donc, c'est Laudi, ces chants religieux qui nous viennent du tout début de la polyphonie occidentale, je l'ai découvert à 17-18 ans, et c'était pour moi un autre monde que je découvrais, une autre manière de pleurer, non plus en yiddish ni en hébreu, mais en latin et pour d'autres figures divines. Et c'est vrai que l'entrée dans un univers de culture occidentale... Au fond, on pourrait dire aussi, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, que je me suis trompé de siècle. J'ai fonctionné un peu comme un certain nombre de gens nés dans des familles juives, non pas en 1950, mais en 1830, 40, 50, qui étaient là dans leur ghetto. Et quand ils sortaient, ils croyaient qu'il fallait en sortir absolument. Donc ils avaient été éduqués en yiddish, en hébreu, dans Talmud et tout. Ils faisaient quoi? Ils faisaient du sanskrit, ils faisaient du persan, ils devenaient professeurs au Collège de France en matière indo-européenne, que d'autres ont appelé arienne et ainsi de suite. Voilà, c'est l'histoire de cette musique, mais... En effet, j'ai toujours continué à aimer beaucoup.
Et c'est une histoire, voilà, qui a de nombreuses ramifications, on le voit. Alors, ce fantôme dans la bibliothèque que vous publiez, c'est un recueil de textes écrits entre 1977 et 2017, hein, pour
d'autres. Ce sont 40 ans de textes entièrement réécrits. Je me suis servi, il y a 20 pages à la fin qui racontent, en fiction réelle, comment j'ai fabriqué le livre, comment certains textes qui parlent de l'absence de récit dédié à la messe en si de Jean-Sébastien Bach, d'où ça vient, mais tout ça a été réécrit entièrement. Pour
alors ça gravite quand même autour d'un même objet, la chose écrite entre possession, production, classification, édition. Ce texte, Maurice Hollander, est l'occasion aussi d'interroger la matérialité de l'écrit, ce qui n'est pas d'ailleurs sans rapport avec les 28 tomes de l'encyclopédie de Pérez Reverté dans Deux hommes de bien. Ça pèse, c'est aussi une matière, cette encyclopédie, c'est aussi un poids. Et d'interroger le sens que cette matérialité chez un homme fait ou défait. C'est aussi un livre sur l'histoire d'une absence, sur une dissociation entre l'individu et la chose écrite qui lui est pourtant paradoxalement nécessaire. Et une bonne partie de ce recueil, en effet, est consacrée à ce récit introspectif où vous traduisez, Maurice Hollander, un rapport très très ambigu à la chose écrite, voire névrotique, je ne sais pas si j'utilise le mot ou non, en particulier dans cette période dont vous nous parliez de votre adolescence, puisque né en effet analphabète, vous allez refuser la lecture jusqu'au début de l'âge presque adulte, au fond.
Je vous donne un exemple pratique et simple qui pourrait d'ailleurs donner des idées à celles ou ceux qui ont peur de lire, et ils sont nombreux. J'ai découvert un jour, j'arrivais pas à lire et je lisais peu, qu'il y a une forme d'œuvre, un genre tout à fait classique depuis plus de 2500 ans qui existe et qui est le théâtre. Le jour où j'ai découvert que je pouvais lire toute une pièce de Shakespeare ou de Molière ou de Corneille en très peu de temps, parce que d'abord il y a très peu de mots sur chaque page, ce sont des dialogues, c'est-à-dire que c'est une langue entièrement écrite mais entièrement orale, eh bien je suis rentré en quelque sorte en culture, si je puis dire, à la fois par le théâtre et, vous nous avez fait entendre du Charles Trenet, par le music hall. Voilà.
Il y a une chose de livre de Maurice Hollander, de Fantôme de la bibliothèque, qui m'a fait penser à quelque chose. Quand il dit, je pense à ces auteurs qui ont écrit des livres, mais sont peu lus, mais ça m'a fait
penser. Qui sont peu lus, c'est ça, mais qui continuent quand même.
Oui. Mais ça m'a fait penser, monsieur Hollander, dans les auteurs qui écrivent des livres et qui n'ont pas lu jamais. Parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération d'auteurs qui n'ont pas lu les grandes références de la littérature européenne et qui écrit des livres. Qu'est-ce que vous pensez de l'écrivain qui écrit sans avoir une bibliothèque derrière lui?
Oui, alors ce serait comme dans l'art brut, si vous voulez. Mais la phrase à laquelle vous faites allusion, c'est assez extraordinaire parce que ça ouvre un chapitre sur le Shabbat. Le vendredi soir, les bénédictions, et ça commençait de la manière suivante, c'est ça la phrase à laquelle vous êtes. Je pense à ces auteurs qui ont écrit des livres peu ou jamais lus, poursuivant jusqu'au bout, en silence, leur existence. C'est à ça que vous pensiez. Alors, pour ce qui est de ces rapports entre lecture et écriture, c'est vrai que j'ai sans doute passé... C'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est d'essayer de comprendre ce rapport... Là. Et l'absence dont Onodi Bio parlait il y a un instant, elle se donne aujourd'hui à voir d'une manière excessivement inverse dans ce que j'ai appelé la fabrique de mes archives. Donc j'ai énormément d'archives qui sont déposées à l'IMEC, à l'Institut Mémoire d'édition contemporaine, où il faudrait inviter non seulement toutes les écoles, mais tous les voyageurs, vous-même, Pérez Reverté, à aller voir une merveilleuse abbaye près de Caen, qui est un lieu d'archives, de travail pour un grand nombre d'auteurs. Et c'est vrai que je me suis dit, alors ce livre, en tout cas moi, m'a servi à essayer de comprendre les choses. Au fond, comment un gosse qui n'avait rien, qui avait le sentiment que rien n'existait d'ailleurs, c'est vrai, je suis né en 1946, cet enfant-là s'est mis à tout fabriquer. Sauf que moi, mes fictions, elles sont dans la vie. Aussi, je dirais, pas seulement dans ce que j'écris, mais vous aussi, j'en suis sûr.
C'est vrai, ces archives, on en dit un mot, Maurice Hollander, on peut tout à fait concevoir, par exemple, de récupérer à la mort d'un écrivain les brouillons. D'ailleurs, je sais pas, Arturo Pérez Reverté, est-ce que vous conservez, vous, vos brouillons, vos notes préparatoires?
Oui, mais pour ma fille, pas pour la postérité, mais
voilà,
pour la famille.
Mais pour votre fille. Mais là, vous, Maurice Hollander, c'est de votre vivant. Et d'ailleurs, l'IMEC aussi a été créé pour ça, pour inviter les auteurs de leur vivant à contribuer à cet archivage.
Je pense que la grande invention de l'IMEC, c'était à l'époque Olivier Corpet, aujourd'hui c'est Nathalie Léger, comme vous savez, qui dirige l'IMEC, a été de penser les archives d'une manière vivante. Les auteurs,
les archives d'écrivains,
que ce soit Jacques Derrida, De Guy, tant d'autres romanciers, des artistes, mais c'est de leur vivant qu'ils ont déposé. Donc c'est une vision très, très spécifique.
Mais c'est quoi, c'est l'écrivain qui sait de lui-même, puisqu'il est vivant, ce qu'il est précieux d'archiver pour mieux comprendre son travail. C'est ça, en fait, l'idée.
Je vous dirais que très modestement, pour ce qui me concerne, les archives sont globalement en deux parties. Elles concernent, en effet, il y a mes manuscrits des langues du paradis ou maintenant de matériaux
du rêve, etc.
Il y a
vos billets de train aussi.
Il y a les billets de train, mais les trains sont une chose fondamentale. Ouais. Comme on le voit, ce que sont les voyages en train, comme les trains de Steve Reich dans mon livre. Vous vouliez dire quelque chose?
De toute façon, je suis pas très sûr, moi, personnellement, peut-être je suis trompé, mais je ne suis pas très sûr qu'ils soient bons approcher si près à un écrivain. Je crois que il faut une certaine distance.
Ouais. Il ne faut pas tout savoir, oui, c'est ça.
Quand on rentre trop, on détruit
la magie.
La magie de la.
Cette magie, dans mon cas, elle est entièrement préservée. Vous savez pourquoi? Parce que j'explique dans ce livre que toutes mes archives à l'IMEC sont entièrement fabriquées. Ce sont des authentiques, mais par le choix que je fais, c'est ma fabrique imaginaire à moi. C'est la liberté que je m'offre.
On vous écoute, Maurice Hollander, dire un extrait de ce fantôme dans la bibliothèque.
C'est un extrait, Onodi Bio, que vous avez choisi. Lorsque j'arrive dans cet univers, en 1946, c'est un dépôt de cendres. Dans une famille sans archives matérielles, les récits de mon enfance succombaient sous les fantasmes de l'archive. C'est parce qu'il n'y en avait pas qu'on en parlait tant. Un monde d'oralité où l'on dissertait sans arrêt sur ce qui n'existait plus. Ville, rue, maison, cimetière, paysage, humains vivants de tous âges évaporés dans un no man's land qui n'était même pas celui des morts. Il n'y avait d'ailleurs pas plus de morts que de livres pour les raconter, ni d'écrits, ni d'archives. Il n'y avait qu'un monde balisé par la radicalité d'une disparition, un univers qui avait donné lieu à un outrage à la mort. Je fais un commentaire, c'est la mort elle-même qui a été assassinée, parce qu'après tout, mourir, c'est humain. Je poursuis. Dans un tel contexte, le plus étrange pouvait paraître la joie du petit garçon né de la survie. Je dansais par-dessus les flammes de ces bûchers invisibles pour l'enfant. Ce monde aux dimensions insoutenables, aux limites imaginaires du disciple, se réduisait à l'épreuve quotidienne de cauchemar où l'enfant pris dans une rafle, déporté dans des trains de folie avec tant d'autres, se réveillait en sursaut, cherchant de la main la bordure de sa couette pour s'assurer qu'il s'agissait d'un enfer onirique dont on pouvait sortir. Plus tard, en lisant dans La Tempête de Shakespeare, « We are such stuff as dreams are made on », il m'a semblé que rien n'était univoque. On ne se libère pas plus aisément de songes mortels qu'on ne peut s'échapper d'une réalité tissée dans la même étoffe.
Merci Maurice Allender, c'est un extrait d'Un fantôme dans la bibliothèque. Est-ce que c'est l'idée d'un sauvetage par la lecture qui s'opère ici avec cette convocation de Shakespeare? C'est pas Diderot et d'Alembert, c'est Shakespeare.
Pardonnez-moi de revenir sur un des thèmes principaux de ce fantôme dans la bibliothèque qui est... C'est très très difficile de comprendre. De comprendre quoi que ce soit, de comprendre une vie, de comprendre soi, de comprendre l'autre. C'est ce que j'ai fait, il y a un chapitre qui s'appelle « Qui est une lettre d'amour ». C'est quoi tout ce qui se passe dans une vie? Comment peut-on comprendre? Et c'est vrai que même quand on lit, même quand on écrit, quand on fait cet effort et la jouissance qui naît de la compréhension, c'est l'élucidation des choses, je continue toujours à penser que ce qui est essentiel, c'est de réserver une part à ce qui nous échappe, à ce qu'on ne comprend pas. C'est grâce à des romanciers comme vous, Pérez Reverté, à tant d'autres grands écrivains, qu'on est initié aussi à apprendre ce qui nous échappe. Et la musique qu'on a entendue, la musique est un espace sonore où tout, globalement, du sens nous échappe.
Je voudrais qu'on termine sur cette image de la bibliothèque, quand même, qui vous réunit, Arturo Pérez Reverté, avec ses hommes de bien. La notion d'ailleurs d'homme de bien, l'homme de bien est celui qui apporte les livres dans un monde qui veut ses livres, mais qui résiste aussi à ses livres. Et il y a un paradoxe que j'adore dans le livre de Maurice Olender, je vous cite Maurice Olender, « On peut aimer s'entourer de livres pour rêver de les lire. Et si la fonction la plus efficace de toute bibliothèque était d'inciter à une lecture sans fin qui n'aura jamais lieu ?» Et ça, je trouve ça très très beau, parce qu'au fond, c'est vrai qu'on dit toujours « mais à quoi bon ces livres qu'on n'aura jamais le temps de lire ?» Mais au fond, toute la magie, on a parlé de magie, et là, en fait, cette lecture sans fin, qui pourrait être là, mais qui n'aura jamais lieu, faute de temps. Et est-ce que c'est pas là que réside toute beauté de la bibliothèque ?
Moi, chez moi, j'ai des livres que c'est que jamais je lirai, mais ils sont là, ils font mon entourage. Chaque fois, j'approche, je touche, j'ouvre un peu. Parfois, je lis des pages, je les laisse. Ça, c'est la bibliothèque. Pas un endroit pour lire, mais un endroit pour vivre, pour être protégé et bon, c'est juste mal.
Et pour combattre?
Sans
penser qu'on ne va pas gagner.
Non, parce que la plus belle bataille, c'est la bataille qu'on sait qu'on ne va pas la gagner. Alors, les livres, justement, nous donnent la force pour nous battre en sachant qu'on va perdre la bataille.
On termine là-dessus, Maurice Olender.
Une bibliothèque, c'est aussi ce que j'appelle dans mon bouquin une installation archéologique. C'est un système visuel. Vous parlez des livres qu'on touche, qu'on approche, qu'on ne lit pas nécessairement, mais on sait où ils sont. On veut qu'ils soient là. C'est aussi un univers sans doute rassurant, comme seraient des rêves qui pourraient se réaliser, alors qu'on sait que tant de rêves ne se réalisent pas.
Et le fantôme étant aussi l'affiche, d'ailleurs, qui indique qu'un livre a été pris.
Il faut rappeler que, sous son allure de grand roman, Un fantôme dans la bibliothèque, c'est un titre très modeste. Le fantôme est un accessoire de bibliothèque en français. Vous savez, quand on emprunte un livre, en lieu et place du livre qui est emprunté, on marque par exemple Pérez Reverté, place 34, parce qu'on est allé lire à la place 34. Et ce qui se passe dans le récit que je fais là, c'est qu'un jour, mon enfant à volonté analphabète, arrive dans une bibliothèque, il va pour emprunter un livre, il regarde et en lieu et place du livre manquant, il n'y a pas de fantôme. Et Amen. C'est là où il
Amen.
Comprend tout.
Amen. Amen.
Amen. Amen. Ce sera le dernier mot de cette émission. Amen. De Pérez Reverté. Donc c'est ainsi entre le rêve d'une bibliothèque et d'une encyclopédie retrouvée dans toute sa force de vie et de combat que nous nous quittons. Je rappelle, messieurs, les titres de vos livres. Arturo Pérez Reverté, Deux hommes de bien, C'est au seuil. Et Maurice Olinder, Un fantôme dans la bibliothèque, librairie du 21e siècle. Il se trouve que C'est au seuil aussi. Merci, messieurs. Merci, Maurice Olinder.
Merci à vous.
Et merci à Arturo Pérez Reverté.
Merci, merci. Et
hasta merci. Luego.
Hasta luego.
C'est le moment de retrouver notre libraire de la semaine. Nous sommes cette semaine avec Cécile Ménanteau de la librairie Les Bien-Aimés à Nantes, 2 rue de la Paix. Bonjour Cécile Ménanteau.
Bonjour.
Alors, vous avez choisi de nous parler de L'Ordre du Jour. C'est le nouveau livre d'Éric Villard. C'est publié chez Actes Sud.
Tout à fait. Alors, L'Ordre du Jour, c'est un livre totalement palpitant. Comme le dit Éric Villard, c'est un récit. On est toujours, non pas dans un récit dramaturgique, mais toujours un point d'histoire qu'il se permet de reprendre et de regarder autrement. Là, tout va se situer entre février 1933 et septembre 1938, du côté allemand, Reichstag de Berlin, Hitler vient d'arriver au pouvoir. Et en fait, ce qui est formidable dans ce livre, en 16 chapitres, on rentre par le trou de la serrure, et Éric Vuillard nous permet d'aller voir l'histoire comme on ne la voit pas, comme souvent un très bon prof d'histoire va vous la raconter. Mais ce n'est pas que de l'histoire, c'est évidemment pour Éric Vuillard la façon de nous faire rimer l'histoire ancienne avec l'histoire d'aujourd'hui. Et c'est d'une acuité et comme des détonateurs dans le cerveau, je dirais.
Et pourquoi voilà. Ce livre vous a touché particulièrement, mis à part le côté détonateur, est-ce que par rapport à l'époque qu'on traverse aussi, il y a des choses qui résonnent?
La première scène, c'est une réunion secrète. C'est 24 hommes qui sont des hommes de pouvoir, d'influence et qui sont invités par Hitler au Reichstag et qui sont des hommes chapeautés, costumés, avec beaucoup d'argent. Et en fait, Villard nous permet par cette petite scène d'ouverture, encore une fois par le trou de la serrure, de comprendre l'entre-soi, la connivence, l'influence de ces hommes. Il y a Krupp, il y a tous les grands industriels allemands de l'époque qui vont, par une petite réunion anodine pour eux, où l'argent circule facilement, eh bien, Vuillard nous montre comment l'influence va pouvoir se faire pour qu'après, le projet d'Hitler puisse avoir lieu. Et c'est une façon tellement moderne de nous raconter l'histoire qui est si proche. Évidemment, L'Ordre du Jour, je pense qu'Actes Sud a choisi de le sortir pas par hasard à cette période de l'année. Et c'est aussi pour ça, moi, en le lisant, ça m'a réveillé, ça m'a électrocuté, je dirais, par rapport à ce que nous vivons en France actuellement.
Parfait. Merci beaucoup, Cécile Ménanteau. Donc, vous nous parliez de L'Ordre du Jour. C'est votre choix. C'est signé Éric Villard. C'est chez Actes Sud. Je rappelle que vous nous venez de la librairie Les Bien-Aimés. Très, très joli nom. C'est à Nantes, 2 rue de la Paix. Vous aviez quelques événements à nous annoncer. Vous allez recevoir quelqu'un, d'ailleurs. Voilà. Grand
oui,
écrivain de romans noirs.
Tout à fait. C'est un style très différent. Hervé Lecor, grand auteur de polar français, édité par Rivage. On le recevra le 18 mai à 18h30 avec une association de polar bien connue à Nantes qui s'appelle Fondu au Noir.
Fondu au Noir.
Dernier roman. Ouais. Ils sont assez connus à Nantes. Ils ont un journal sur le polar. Ils font un festival également à côté de Nantes. Donc ils interviennent. Ils font souvent des rencontres, ce qui sera le cas avec Hervé Lecor, entre la littérature et le cinéma, puisque Hervé Lecor sera invité après la rencontre à la librairie à aller faire une carte blanche de cinéma à quelques pas de la librairie. Voilà. Et on aura également un événement jeunesse le samedi 20 mai à 10h30 à la librairie autour d'un album sorti chez Albin Michel qui s'appelle Les Moments Doux par Caroline Dalava, qui est une petite merveille pour les enfants, je veux dire, à partir de 6 ans, un atelier suivi d'une dédicace de ce très bel album jeunesse.
Parfait, il faut les initier, voilà, et leur donner des livres aux enfants entre les mains et sous les yeux et à toucher aussi, c'est important. Merci beaucoup Cécile Ménanteau.
Merci à vous.
Voilà, librairie Les Bien-Aimés à Nantes, 2 rue de la Paix, qui nous a parlé de l'ordre du jour d'Éric Villard chez Actes Sud. Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura, avec la complicité de Gabriel Bordron, à la réalisation Delphine Lemaire, à la technique Pascal Bénard et Pierre Monteil. Vous savez que vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter pendant 1000 jours, c'est énorme, sur franceculture.fr. 7h avec Arturo Pérez-Reverté et Maurice Olinder. We'll be right back.